Alors, j'ai commencé un petit peu la semaine dernière de faire un petit retour sur les fondamentaux. Hein. On a parlé la semaine dernière, oh, vous avez vu comme les rois, hein, on. J'ai parlé, tout simplement, du lien entre la vérité et la liberté. Et ce matin, j'aimerais revenir sur un autre plus que fondamental de notre foi et de la spiritualité chrétienne, c'est l'amour, tout simplement. Hein, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, partout, dans tous les sens, avec beaucoup de choses. Et j'utilise tout le temps cette image, vous le savez, vous me connaissez. Je dis que les mots, c'est des boîtes. Hein. Alors voilà, ce matin, j'ai pris une petite boîte. Voilà, ça, c'est la boîte amour. Et dans une boîte, ben, vous savez qu'on peut mettre un peu beaucoup de choses et ce qu'on veut surtout. Hein. Alors, dans la boîte amour, qu'est-ce qu'on trouve? J'ai imprimé des petits papiers, mais ils sont compliqués à attraper, alors je ne vais pas les sortir, mais il y a plein de choses. Derrière le mot amour, il y a tout ce qui est lié au désir, hein. Que ce soit le désir sexuel, le désir, hein, voilà, le désir. Et puis, on peut décliner ça sous toutes les formes, mais c'est lié à l'amour. Hein. Il y a aussi l'envie de posséder. Hein. Lorsqu'on dit, voilà, c'est les soldes, et puis je regarde un nouveau vêtement et je dis, oh, j'aime ce blouson. Ça veut dire, j'aimerais qu'il m'appartienne. Hein. Donc tout ce qui est lié à la possession, c'est aussi dans cette grande boîte qu'on utilise en tout cas quand on parle d'amour. Hein. Et on pourrait multiplier les choses. C'est aussi une façon de décrire nos goûts. Quand je dis, j'aime la musique jazz ou j'aime les couchers de soleil. J'aime, etc., etc. Hein, j'aime marcher sur la plage, j'aime faire du ski. Donc, on parle d'amour, mais ça parle, c'est un vocabulaire qu'on utilise pour décrire les choses qu'on aime. Donc, vous voyez déjà, entre tout ce qui est désir, et y compris désir sexuel, mais désir de là, tout ce qui est exprimer nos goûts, plus envie d'avoir pour nous. Hein. Et puis, il y a aussi. On s'en sert pour parler de ce qui nous touche. Hein. Quand je dis j'aime la musique, comme j'ai déjà dit, c'est pas le fait que je voudrais qu'elle m'appartienne, parce que heureusement c'est pas possible, mais ça veut dire ce genre de musique produit quelque chose chez moi, ça me touche, et je dis j'aime ça. Hein. D'ailleurs, de la même façon qu'on peut dire j'aime la fondue ou la gentiane ou autre chose. Hein. Voilà, ça a quelque chose qui me plaît, ça me touche, et je dis que j'aime. Mais ça n'a pas forcément à voir avec ce qu'on peut appeler l'amour dans d'autres choses. Et puis aussi, il y a tout ce qui sert à décrire les relations dans la famille et dans l'amitié. Hein. Lorsque je dis j'aime mon enfant, ça ne veut pas dire la même chose que lorsque je dis j'aime la fondue, hein, heureusement. Et puis, lorsque je dis j'aime ma femme, ça ne veut pas dire la même chose que lorsque je dis j'aime ma fille. Et lorsque il y a aussi tout ce qui est lié à l'amitié, hein. C'est aussi une forme d'amour. Donc vous voyez que dans cette boîte amour, il y a voilà, il y a beaucoup 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 de choses. Et puis ben, chacun d'entre nous, on a nos propres choses qu'on a mis dedans. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile quand on communique, quand on parle les uns avec les autres ou quand on lit un texte dans la Bible. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Hein. Et c'est vrai qu'il y a une certaine facilité, surtout à une époque où quand même on aime beaucoup, enfin on aimerait en tant que croyant être accepté par tout le monde et que tout le monde nous aime, encore ce fameux mot, hein. Ben, à laisser planer le malentendu. Caroline nous a parlé du Petit Prince, j'aurais presque aimé qu'elle développe un peu plus et qu'il n'y ait rien d'autre. Hein. Vous me connaissez. Le langage est source de malentendus. Mais des fois, on le laisse planer parce qu'on parle avec quelqu'un et puis quand il dit, la personne peut dire, oh oui, Dieu est amour. Et puis nous, on dit, oui, Dieu est amour. Hein? Et en fait, on parle absolument pas de la même chose. Peut-être que pour quelqu'un, quand il dit Dieu est amour, ça veut dire, ouais, c'est vrai, je trompe ma femme, je paie pas mes impôts et puis je suis pas toujours honnête. Mais Dieu m'aime quand même. Ça peut vouloir dire ça. Et puis pour quelqu'un d'autre, ça veut dire autre chose, et pour quelqu'un d'autre, ça veut dire autre chose encore, etc. Alors c'est important, au-delà de toutes les utilisations qu'on peut faire, et qui sont correctes, hein, du mot amour, j'aime les spaghettis, j'aime la musique jazz, j'aime marcher dans la neige, j'aime mon chat, et j'aime ma fille, et j'aime ma femme ou mon conjoint, de voir ce que la Bible nous dit sur l'amour et l'amour de Dieu en particulier. Alors vous avez déjà trouvé le chapitre que je vais utiliser dans la Bible, il est très très connu, mais souvent très très survolé, et je ne vais pas prendre le temps, j'ai hésité là aussi, mais si on voulait faire une étude détaillée de ce texte, bah, il faudrait l'étaler sur 18 dimanches, et puis ça serait un peu compliqué. Alors je vais faire un survol, et puis bah, c'est des devoirs pour ceux qui veulent à la maison. 1 Corinthiens 13, et je vais le lire tout simplement dans la traditionnelle version seconde. Si je parlais les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste voir ce premier bout de texte un peu dans l'ensemble. En fait, ce que Paul, c'est pas l'habitude de Paul d'être un peu poétique ou d'utiliser des images. Hein. Normalement, Paul, c'est plus tac, 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 c'est carré. Hein. Le Petit Prince n'était pas le livre préféré de l'apôtre Paul. Il préférait la doctrine théologique systématique de je sais plus trop qui. Voilà. Mais là, c'est un sujet où il est obligé d'utiliser des images parce que c'est compliqué de parler des choses qui sont complètement immatérielles. Hein. Et il superpose les images pour nous dire que l'amour qu'il va décrire après, donc on ne sait pas encore lequel c'est, hein, mais cet amour qui est l'amour de Dieu, s'il n'est pas à l'origine de tout ce que je fais et à l'origine de tout ce que je suis, ce que je fais et ce que je suis n'a pas de poids, n'a pas de valeur. C'est pas forcément que c'est mal dans le sens mauvais, méchant, hein. C'est juste que ça ne laissera pas de traces. Lorsque j'avais parlé un petit peu sur le temps en tout début d'année, hein, j'expliquais, nous sommes des alchimistes qui avons la possibilité de transformer le temps qu'on ne peut pas arrêter, puisque pendant qu'on parle, il fuit. Hein. Mais selon ce qu'on fait pendant ce temps qui nous est donné et qui fuit, on peut l'arracher au néant parce qu'on le convertit en chose qui dure. Et c'est lié avec le sujet de ce matin, parce qu'en fait, ce qui nous permet de convertir le temps qui passe en quelque chose qui ne disparaît pas et qui va faire partie de nous pour l'éternité, c'est justement si ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous entreprenons est issu de l'amour, énergisé par l'amour et appliqué dans l'amour. Sinon, bah, ça peut être très bien. Mais ça ne laissera pas de traces éternelles. C'est ça que ça veut dire. Parce que des fois, on fait des choses, on le fait sans amour, et puis il faut quand même les faire, et on les fait, et c'est des bonnes choses, et c'est bien. Ce n'est pas un péché de les avoir fait comme ça. Mais c'est dommage parce qu'elles vont poup, passer. Hein. Si je prends un exemple un peu... C'est gros comme exemple, mais c'est pour qu'on comprenne. Hein. Voilà, je vais aider ma voisine parce que j'ai envie que les autres voisins disent que j'ai aidé ma voisine. C'est quand même bien. Parce que pour ma voisine, elle a été aidée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une chose mal. Simplement, si mon intention, ma motivation première, c'était « je veux que dans le quartier, on dise que je suis quelqu'un de bien ben, », à la fin de l'action, qui était bien pour ma voisine, il n'en reste rien dans mon compte éternel, on va dire. Hein. Et quand je vais quitter cette terre, il n'y aura pas quelque chose dans mes bagages qui soit lié avec ça. C'était quand même bien d'aider la voisine, même pour une mauvaise intention. Hein. Et c'était mieux que de ne pas le faire. Mais j'ai raté une occasion, entre guillemets, de m'enrichir réellement en le faisant pour de bonnes motivations, avec le bon carburant, et puis en l'appliquant avec amour. Et on peut appliquer cette réflexion-là à tous les domaines de nos vies. En discutant, je ne sais plus trop avec qui, c'est il n'y a pas longtemps, peut-être c'était chez vous, on a beaucoup parlé. J'ai eu une période, heureusement pas trop longue, dans ma vie de jeune chrétien où je m'étais mis à étudier ce qu'on appelle l'apologétique, qui est la défense de la foi. Alors j'avais étudié ça à fond, surtout l'apologétique philosophique, parce que le côté scientifique, ce n'était pas mon domaine. Et puis, je prenais beaucoup de plaisir à cette époque-là. On allait tous les samedis, des fois plusieurs fois par semaine, dans la rue rencontrer des gens pour parler avec eux. Comme j'avais bien étudié ce sujet, que je me débrouillais déjà à peu près pour parler, hein, je parlais avec des gens qui n'étaient pas croyants et j'arrivais à leur clouer le bec. Et je repartais content. C'est stupide, hein ? Comme disait Jean d'Ormesson, j'ai longtemps été un jeune con. Avant de devenir... Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est que tout ce que je disais était vrai. Mon but, c'était d'avoir raison dans la discussion. Les pauvres personnes qui me racontaient, qui n'étaient pas du tout préparées à ce genre de discussion, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, paf, 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 à la fin, ils avaient l'air un peu ridicules, et moi j'avais gagné la discussion. Ah, oh, que c'est triste. Hein. Je m'en suis assez vite aperçu, heureusement. Et j'ai changé. Mais tout ça pour dire que ce que je disais était vrai. Hein. Et puis le but, c'était quand même de montrer aux gens qui disaient que Dieu n'existait pas, que c'était faux. Etc. Donc tout pouvait être... Ah, mais c'était nul. C'était une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Ça sert à rien. Et voilà. Et on peut donc, encore une fois, ce petit paragraphe-là, il s'applique à tout. Et si je relis ça avec ce que Caroline nous a partagé, ben c'est justement ce qui va déterminer si on devient celui qu'on devrait être, parce qu'on est tous différents, donc on ne va pas tous devenir la même chose dans le monde visible. Mais ce qui est important, justement, ce qui fait que ça garde de la valeur et qu'il y a de la couleur et qu'il y a des fleurs. C'est lorsque ce que nous faisons, pensons, pratiquons, etc., trouve sa source dans l'amour de Dieu, est énergisé par cet amour et est appliqué aussi dans l'amour. Hein. Il ne suffit pas qu'une chose soit vraie pour qu'elle soit bonne. Il ne suffit pas que j'ai raison pour que ce soit bien. Il ne suffit pas que ce soit juste pour que ce soit la bonne chose à faire. Voilà. À développer plus, mais je m'arrête là sur ce petit passage-là. Ensuite, dans le verset 4 à 7, on a une description, plus ou moins, de cet amour qui est l'amour de Dieu. Et avant qu'on arrive à cette description, juste rappeler quelque chose, c'est que toutes les sortes d'amour dont j'ai parlé avant, en tout cas dans le vocabulaire, hein, l'amour désir, jusqu'à l'amour charnel, l'amour pour la famille, l'amour pour... Voilà, la musique, le sport, etc., etc. Tout ce vocabulaire, ça, l'amitié, les relations. Hein. Toutes ces formes d'amour sont issues de ce que j'appellerais l'amour primaire, hein, l'amour de départ, qui est l'amour de Dieu. Toutes ces petites formes d'amour, elles viennent de ce grand amour de Dieu au départ. Simplement, ce n'est pas valable toujours dans l'autre sens. Hein. Vous connaissez cette histoire avec les syllogismes, hein, si ça et ça, alors ça et ça, mais ça et pas forcément ça. Hein. Voilà. Donc tous les petits amours indirectement viennent de l'amour de Dieu, mais tous les petits amours ne sont pas l'amour de Dieu quand ils ne sont pas utilisés là où ils doivent être utilisés. Exemple simple, l'amour filial vient de Dieu, hein, si un père ou une mère aime son enfant, ça vient de Dieu. L'amour pour notre conjoint, ça vient de Dieu. Mais si j'aime mes enfants de l'amour que j'aime mon conjoint, c'est grave. Ça s'appelle l'inceste et ce n'est pas bon. Hein. Donc voilà, tous ces petits morcellements d'amour, ces ruissellements d'amour sont issus au départ bien sûr de l'amour de Dieu, qui lui est l'amour premier et général, mais chacun d'entre eux doit être appliqué dans son contexte, sinon c'est grave. Hein. On ne mélange pas les genres. Par contre, ils ont tous cette origine-là. Et puis, l'amour de Dieu, lui, il est au-dessus de tout ça et il nous dépasse. Et on ne pourra jamais l'englober. L'amour, c'est comme la vérité. Tout le temps, je reprends cette image. La vérité existe, elle est comme un fleuve. Et puis, des fois, j'y suis dedans, des fois, je suis à côté. Mais elle ne m'appartient pas. L'amour, c'est comme ça, mais c'est plus qu'un fleuve. C'est un océan où c'est encore plus que... On n'arrive pas à avoir d'image plus grande. Hein. Et puis, je peux être dans cet océan. Mais je ne peux pas l'englober, je ne peux pas l'embrasser, je ne peux pas tout le comprendre, je ne peux pas le maîtriser. Mais j'y suis dedans ou j'y suis pas. Hein. Voilà. Alors maintenant, on a cette description que l'apôtre Paul va nous donner. L'amour est patient. Hein. Et toujours, il faut penser, quand on écoute cette description, que ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que lui est pour nous. Parce que si on lit cette description, et j'ai souvent entendu ça, et puis au fur et à mesure qu'on lit, on nous dit « à vous d'être comme ça ». Mais ça devient un texte terroriste. Hein. Il y a de quoi déprimer quand on lit ça. Parce que effectivement, on n'est pas comme ça. Parce que si on était comme ça, on serait Dieu. Et on a de la marge avant d'en être là. Hein? D'accord. Donc, il faut se rappeler ça. Oui, Dieu veut que ces caractéristiques de l'amour se manifestent en nous. Mais comment elles se manifestent en nous? Parce que je les reçois de Dieu. L'amour, cet amour-là, qui va être décrit ici, il n'est pas produit par le cœur humain. Vous savez que pour le fonctionnement du corps, il y a des choses que notre corps produit et il y a des choses qu'on doit absolument apporter à notre organisme par l'alimentation parce que notre corps n'est pas capable de le fabriquer. Hein. Donc on doit le trouver à l'extérieur et on doit en apporter régulièrement pour fonctionner correctement. L'amour de Dieu est dans cette catégorie-là. Il n'est pas produit par le cœur humain. L'amour de Dieu a fait que les êtres humains ont des petits ruissellements, des petits écoulements d'amour dans leur vie. Hein. Tout le monde qui croit ou qui ne croit pas en Dieu peut aimer quelqu'un d'autre, peut aimer ses enfants, peut aimer son chien, peut aimer la musique, peut aimer un coucher de soleil. Mais c'est un amour qui a été... qui s'est imprégné de plein de choses qui ne sont pas pures. Hein. C'est comme si vous aviez une eau très très pure quelque part et puis elle passe à travers le sol et puis le sol n'est pas propre et puis il y a des infiltrations. Ça fait des petits ruisselets, c'est quand même de l'eau, mais l'eau elle est un peu polluée. Quoi, hein. Donc tous nos amours, entre guillemets, viennent de ce grand réservoir d'amour qu'est Dieu, mais ils sont tous un petit peu pollués. Hein. Lorsqu'un être humain dit à quelqu'un d'autre « je t'aime », en général, ça veut dire on a des choses en commun, je pense que j'ai quelque chose à t'apporter et tu as quelque chose qui m'intéresse. Hein? L'amour sur terre qui est le plus proche de l'amour de Dieu, bien que des fois il y ait des dysfonctionnements, c'est l'amour maternel. Hein? Paternel un peu après. Parce que c'est l'amour qui est le plus désintéressé. Hein? Quand on aime nos enfants... Ça rapporte rien à part des ennuis. Ça coûte des sous, ça bouffe tout, ça casse tout, ça revient que quand ça a besoin de quelque chose. Et ça comprend la valeur de ça que quand vous êtes mort et qu'ils ont eux-mêmes des enfants. Hein, voilà, c'est comme ça. J'ai des parents, j'ai des enfants. Je suis un peu au milieu, je sais ce que c'est. Mais c'est quand même l'amour le plus proche, on va dire, de l'amour qui est décrit là, parce qu'il n'y a rien à y gagner, très peu. Hein. Mais quand un homme dit à une femme « je t'aime », c'est pas de l'amour désintéressé, hein. En tout cas au début. Voilà, normalement. Okay. L'amour est patient. Hein. Et j'ai pas, comme je l'ai dit, on pourrait. Hein, j'ai fait ça une fois en Roumanie, mais j'avais à peu près 15 heures d'opportunité de prédication par semaine, donc c'était plus simple. Faire un message ou deux sur chaque mot. Mais bon, on va survoler. L'amour est patient. Je crois que la patience de Dieu, à notre égard, on n'a pas besoin de développer, on la connaît. Hein. Il est patient. Puis même moi, ça me dépasse, cette patience avec l'humanité. Quoi. Et à commencer par moi, bien sûr. Hein. Il est plein de bonté. Alors justement, la bonté, c'est souvent ce que nous, on appelle l'amour. Mais on voit que là, ici, c'est juste une des caractéristiques de l'amour. Hein. Dieu est plein de bonté ouais, vis-à-vis de tout le monde, y compris de ceux qui ne lui croient pas en lui, qui ne l'aiment pas, etc. Ça n'a rien à voir. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il n'y a pas, de comparaison dans l'amour. Quand Dieu m'aime, ce n'est pas « je t'aime plus que lui, moins que l'autre », hein, parce que tu as bien fait, mal fait, et puis il y a un commerce derrière, non ? Il n'envie rien d'autre, juste il nous aime. Ça. Et là, je trouve aussi, les parents ont des privilèges, hein, il y a quelques inconvénients, mais il y a beaucoup de privilèges. C'est quelque chose qu'on découvre quand on est parent. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais lorsque ma fille est née, c'était génial, c'était la première merveille du monde, pas la huitième, non. C'était extraordinaire. Et puis, assez rapidement, Anne-Marie était de nouveau enceinte. Et puis, quand on s'est approché de la naissance du deuxième, j'étais pas bien. Pas parce qu'il y avait un deuxième enfant qui arrivait, on en voulait plein, ça c'était sûr. Mais c'était parce que je me disais, comment je vais partager l'amour que j'ai pour ma fille avec le deuxième, quoi. Et ça m'inquiétait. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui calcule normalement, mais j'avais l'impression qu'elle occupait tellement tout mon cœur que je vais couper ça comment en deux, pour en plus être juste, quoi. Hein. Et puis, ben, tous les parents savent ce qui se passe quand un deuxième enfant arrive. Pof ! Il y en a autant pour le deuxième que pour le premier. Ça n'a rien enlevé au premier. C'est mathématiquement pas possible. Mais c'est pour ça que j'aime les mathématiques de Dieu. Hein. Tout simplement, l'espace a doublé. Il y en a deux fois plus. Et puis, j'ai cinq enfants. Et puis, c'est pareil. Et ça continue. Et voilà. Et ça, c'est une petite image aussi de cet amour qui n'est pas envieux parce qu'il ne compare pas. Il donne à chacun le maximum, tout ce que cette personne-là a besoin. Point. C'est pas plus que lui, moins que lui. Ah, lui, j'ai donné ça à lui. Il faut donner. Hein, non. L'amour de Dieu, il est équitable, mais il n'est pas. Dieu n'est pas communiste. Hein. Toi, tu as eu 100 grammes, toi, tu auras 100 grammes. Non. Toi, tu as besoin de 20 grammes pour être rempli. Toi, tu as besoin de 3 kilos pour être rempli. Toi, tu auras 3 kilos, toi, tu auras 20 grammes. Et les deux seront remplis. Hein. Voilà. Donc, il y a toute cette idée-là derrière. Il ne se vante pas. Ben, Dieu ne passe pas son temps à dire hein, « Vous avez vu ce que j'ai fait pour vous hein, ?» Quand même. Hein. Ah, ah, ah. Hein, voilà. Hein. Pas développé. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'expression, elle est jolie et j'aime bien la garder parce que c'est une bonne traduction. Hein. Être enflé d'orgueil, c'est être enflé de vide. Hein. Quelque chose peut être volumineux parce que c'est plein. Ça peut être volumineux, mais dedans, c'est creux. Hein. Et l'orgueil, c'est ça. C'est gros à l'extérieur et c'est vide dedans. Hein. Et justement, on a parlé de la vérité la semaine dernière, c'est le contraire de la définition de la vérité. La vérité, c'est lorsque quelque chose est jusqu'au cœur, ce que ça annonce de l'extérieur. Si Jean nous amenait une belle poutre de chêne, et puis on la coupe en deux, et on regarde, et jusqu'au cœur, c'est du chêne. Mais les meubles qu'on achète souvent maintenant, surtout si on va chez Ikea ou comme ça, hein, il y a du chêne autour. Et puis si vous coupez en deux, l'intérieur, ou c'est creux, ou c'est de la colle avec de la sciure collée ensemble. Hein. Ben, l'orgueil, en tout cas, c'est creux dedans. Il y a juste du plaquage autour. Hein. Il ne fait rien de malhonnête. Je pense que Seconde devait avoir des ancêtres suisses un petit peu. Hein. Il ne fait rien de malhonnête. Darby traduisait, il n'agit pas avec inconvenance. Et en fait, quand on regarde précisément le mot, parce que moi, ça, rien de malhonnête, ouais, d'accord, mais ce n'était pas trop précis. En fait, il ne fait rien qui va contre l'honneur. Et l'honneur, c'est une valeur qui est devenue très très rare dans notre culture, mais qui est en même temps que l'être humain recherche. Et on voit ça parce qu'il y a du goût pour les films ou les romans ou les histoires où quelqu'un agit avec honneur. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose qui ne va rien lui rapporter, qui paraît ridicule, mais c'est ce qu'il doit faire, alors il le fait et puis il meurt en essayant de le faire. Et on dit, ah, c'est beau ça. Hein. Nous, on n'aime pas le faire, mais on trouve que c'est beau. Et l'honneur, c'est ça. C'est faire ce qu'on doit faire parce qu'on sait que c'est ce qu'on doit faire. Hein. Lorsque je suis tout seul dans la forêt et que je mange mon chewing-gum, et que naturellement je pourrais laisser tomber le papier parce qu'il n'y a personne autour, je ne le fais pas tomber parce que c'est ce que je dois faire. Personne ne me voit, Marc ne va pas envoyer des gens chercher l'ADN sur le papier pour savoir si c'est moi qui ai jeté le papier. Hein. Mais je le fais. Hein. Et c'est amusant parce que ça peut s'appliquer à les toutes petites choses, mais c'est bien de le travailler sur les petites choses. Hein. Des fois, je promène mon chien, il fait nuit, et je suis seul, et mon chien dépose ce qu'il dépose quand il doit être dehors. Et là, je me dis, il fait nuit, il fait froid, il faut enlever les gants, je pourrais laisser par terre. Et puis je me dis, mais s'il faisait jour, et puis qu'il y ait les gens autour, je ferais quoi? Ben, j'enlèverais mes gants et je ramasserais, bien sûr, hein, parce que je suis un Suisse. Ailleurs, on fait autrement. Hein. Et de se dire, voilà, ben, si c'est ce que je dois faire, je le fais même quand personne ne me voit, parce que c'est ce que je dois faire. Hein. Et c'est ça l'honneur. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup à nos sociétés. On fait une chose parce qu'on doit la faire, pas parce que ça va me rapporter, parce qu'on me voit ou parce qu'on ne me voit pas. Il ne cherche pas son intérêt. Ben ça, c'est contraire presque à notre instinct de survie. Hein. C'est pour ça que je disais, c'est pas quelque chose que l'être humain peut produire. Nous, on est conditionnés, on est même éduqués à chercher notre intérêt. Et dans une certaine mesure, c'est normal. Hein. de s'occuper de nos intérêts, de ceux de notre famille, de ceux qu'on aime, etc. Mais ça veut dire que lorsque Dieu nous aime, lorsqu'il nous donne quelque chose, lorsqu'il fait quelque chose, ce n'est pas dans une idée de rentabilité. Dieu n'est pas un investisseur qui attend un retour sur investissement. Parce que Dieu a besoin de rien. Et que donc il peut donner. Normalement, il y a des choses qui doivent revenir parce que c'est le cycle naturel de la vie, mais ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Voilà. Il ne s'irrite pas. Alors, de ne pas s'irriter, ça ne parle pas que de la colère. Ça veut dire qu'il résiste bien à l'inflammation. Vous savez ce que c'est une inflammation ? C'est quand il y a un frottement qui normalement est rien, hein, mais qui, à force de se répéter, ça fait mal. Hein. Si je fais ça, c'est une caresse. Si je fais ça du matin au soir, pendant une semaine, je vais avoir une grosse brûlure ici. C'est ça l'inflammation. Pareil pour les articulations, là, d'autres spécialistes pourront en parler mieux que moi, de l'inflammation. Mais c'est quand la répétition des choses produit en moi de l'irritation, parce que c'est toujours la même chose. Et ce n'était pas une chose grave au départ peut-être, mais la répétition fait que... Et c'est ce qui est incroyable avec Dieu, c'est qu'il ne s'irrite pas. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, je me dis, mais comment il fait, quoi ? Ça fait 30 fois aujourd'hui que je reviens à Dieu en disant, je sais qu'il ne fallait pas, mais j'ai encore... Je dis 30 fois, c'est les bons jours, 30 fois, des fois, c'est plus. Et toujours la même chose. Non, Dieu ne s'irrite pas. C'est incompréhensible pour nous. Pareil, si on a des enfants, on sait, le gamin vient, il fait un truc qu'il ne faut pas, ce n'est pas grave. À la 10e, 20e, 30e, 40e, 50 fois qu'il fait la chose qu'il ne faut pas, vous voulez l'étrangler, le gamin. Et Dieu, dans l'amour de Dieu, il n'y a pas cette réaction-là. Ce qui ne veut pas dire que la chose qui est faite est bien, hein, mais ça ne produit pas cette irritation. Et c'est divin. Il ne soupçonne pas le mal. Alors attention, ça, on arrive aux deux, trois caractéristiques qui posent toujours problème. Il ne soupçonne pas le mal. Ouais, alors les chrétiens, ils sont naïfs, ils avalent tout. Non, c'est pas de ça que ça parle. Ça veut dire tout simplement, ils ne voient pas le mal là où il n'est pas. On pourrait le formuler positivement autrement. Il n'est pas trompé par les apparences. C'est la même chose. Hein, il ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire qu'avant d'émettre un jugement, enfin Dieu n'a pas émettre un jugement parce qu'il sait tout, mais on pourrait dire l'amour de Dieu, avant d'émettre il ne se trompe pas sur la nature. Et très, 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 très souvent, nous, lorsque nous analysons les choses, nous sommes trompés par les apparences. Il y a des choses qui peuvent avoir une apparence très mauvaise, et des fois, ce n'est pas si mauvais que ça. Il y a des choses qui ont une apparence très bonne et qui sont mauvaises. Je ne parle pas ici de choses claires, noires et blanches. Si je tape sur quelqu'un qui m'a rien fait, il n'y a pas à chercher les apparences ou pas les apparences, c'est mal. Si je vole, je ne parle pas de ces choses-là. Mais dans toutes les autres choses qui ne sont pas noires et blanches comme ça, très très souvent, on interprète les choses avec nos blessures, notre passé, notre histoire, ce qui s'est passé ailleurs dans une situation qui a l'air d'être la même. Il n'y a jamais deux situations la même. Même si tous les éléments sont identiques, ce n'est pas la même situation. Parce que c'est une autre situation, à un autre moment. Et donc, Dieu n'est jamais trompé par les apparences. Et ça, c'est très important, parce qu'une même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais aider ma voisine parce que j'ai vraiment envie que dans le quartier, on dise que je suis quelqu'un de bien et que je ne suis pas un malhonnête, dis donc. Alors, je vais aider les gens, mais je le fais à l'heure où ça se voit et puis je me débrouille pour que ça se sache. Et puis peut-être, j'ai vu ma voisine, son besoin m'a bouleversé, même si je suis égoïste, des fois on est touché par certaines choses, et puis je décide de l'aider, et il se trouve que le seul moment que j'ai pour l'aider, c'est le moment où il y a des gens qui sont là dans le couloir, et puis d'autres vont dire, vous avez vu, il fait ça quand il y a des gens dans le couloir, parce qu'il veut qu'on le remarque. Ben non, pas cette fois-là. Mais oui, peut-être la fois-là. Donc on ne peut pas juger sur les apparences, parce qu'une même chose, elle est faite dans l'amour, ou elle n'est pas faite dans l'amour. Et personne ne le sait à part Dieu. Et nous, des fois, mais pas toujours en plus. Même nous, on peut se tromper. Donc, il ne soupçonne pas le mal, ça parle de ça. Ce n'est pas une naïveté stupide que les chrétiens ne verraient jamais le mal quand il y a le mal. et puis dénoncerai jamais le mal. Oh oui, il abuse de ses enfants. Non, non, il ne faut pas soupçonner le mal. Non, c'est mal, il faut le mettre en prison et lui couper la tête ou autre chose. Non, mais voilà, c'est pas cette naïveté gentille chrétienne qui fait que oh, tout est bien, c'est pas grave. Non, non, c'est pas ça. Hein? Mais on ne juge pas sur les apparences. Voilà. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Est-ce que vous vous réjouissez de l'injustice ? Moi, j'étais surpris de découvrir que oui. Pourtant, je suis français, normalement, l'injustice me met en colère. Mais récemment, il y a une année et demie, j'ai appris qu'un monsieur qui m'avait fait pas mal de tort, c'est vrai, et puis qui s'est jamais excusé ou quoi que ce soit, tout d'un coup, on m'apprend qu'il avait eu un AVC. Et ma première réaction, c'était « bien fait ». C'est horrible hein, ce que je dis, c'est horrible. Parce qu'en plus, c'est une des choses que je redoute le plus. J'ai pas peur de mourir, mais ça, ça me fait peur. D'accord ? Mais ma première réaction, c'était « ah, quand même, il y a une justice ». Heureusement, deux secondes après, j'étais « mais c'est horrible ce que j'ai pensé ». Parce que si Dieu était juste, je serais désintégré. Donc je veux pas qu'il soit juste. Surtout pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est que dans notre cœur, on aime l'injustice quand elle nous arrange. Hein ? L'amour de Dieu, il n'est pas comme ça. Lorsqu'un ennemi de Dieu, entre guillemets, souffre, Dieu est autant touché que si c'est un saint qui souffre. Ça n'a rien à voir. L'injustice, le mal, le malheur des autres ne le réjouit pas. Ben, nous, on n'est pas comme ça. Mais Dieu est comme ça. Et si on reçoit son amour, on va être un peu moins comme ça. Hein ? Et puis... il se réjouit de la vérité. Hein ? Se réjouir de la vérité, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi parce que ben, c'est la même chose. C'est, si quelque chose est vrai, même si c'est quelqu'un que j'aime pas qui le dit, c'est vrai. Alors que nous, on est partisans. Hein ? Il y a nos amis, les gens qu'on aime bien, ils peuvent dire n'importe quoi, tout ce qu'ils disent, c'est bien. Bon, on sait que c'est pas bien, mais c'est mes amis. Hein ? Par contre, il y a des gens qui sont dans l'autre catégorie. C'est les gens qu'on déteste. Hein ? Même quand ils disent un truc bien, ben c'est forcément pas bien, parce que c'est eux qui l'ont dit. Non ? C'est pas comme ça que Dieu pense. Si quelque chose est vrai, même si quelqu'un qui a fait beaucoup de mal le dit, qui est horrible, qui est méchant, cette chose-là est vraie, elle est vraie, hein, et dans les deux sens. Donc c'est la même chose à l'endroit et à l'envers. Il pardonne tout. Là aussi, chaque fois que j'ai abordé ce sujet, j'avais des questions après. Oui, mais alors ça veut dire que je dois pardonner, il a recommencé. Non, non, il pardonne tout, ça veut pas dire... D'abord, ça parle de Dieu, d'abord, hein, c'est l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il dit « c'est bien, tu peux recommencer, ah, tu me tapais dessus, je te pardonne, tu peux encore me taper dessus ». Évidemment, non. Hein. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pardonner si quelqu'un confesse qu'il a mal agi. Hein. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais si je refuse de reconnaître que j'ai mal agi, la condamnation reste sur moi. Même Dieu ne va pas l'enlever, d'accord ? Donc quelqu'un qui reste dans le mal, moi je peux lui pardonner parce que de mon côté à moi j'ai besoin de me dégager parce que quand je refuse moi de pardonner, c'est moi que je tiens prisonnier. Hein. Mais ce n'est pas la naïveté de dire « oh ben, il me tapait dessus mais je retourne, il va encore me taper dessus ». Non, il me tapait dessus, je vais faire ce qu'il faut pour qu'il ne me tape plus dessus. Je vais prendre des cours de boxe, acheter une arme, je sais pas, je vais déménager plutôt. Mais voilà, donc c'est, ça n'a rien à voir avec, là encore avec cette naïveté, ah ben les chrétiens ils pardonnent tout, ils peuvent tout, on peut tout leur faire. Non, non, pas du tout. Hein. On aime la justice, on aime la vérité et on ne laisse pas tout faire. Mais Dieu peut tout pardonner. Et effectivement, ben, il y aurait des millions d'exemples, hein, mais le grand classique, Jésus sur la croix, ce bonhomme à côté, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais des choses horribles. Et puis juste, il accepte ce que Christ a fait et Dieu lui dit, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais il n'a pas été réparé, il n'a pas été demandé pardon, il ne s'est pas fait baptiser, il n'a rien fait. Ben oui, Dieu pardonne tout si réellement on lui demande pardon. Hein. Donc ben nous, encore une fois, on n'est pas Dieu, mais c'est rassurant pour nous. Parce que je ne sais pas pour vous, mais des fois on a l'impression qu'on a dépassé le quota de pardon hein, dans un certain domaine. Et ce n'est pas une excuse pour se rouler dans ce qui est mal. Mais on est qui on est et Dieu pardonne tout. Il croit tout. Là aussi, si ça voulait dire qu'on croit n'importe quoi, ça serait grave. Parce que la Bible entière nous apprend à discerner la vérité, etc. Donc il croit tout, ce n'est pas que chaque fois que quelqu'un vient vous voir, vous le croyez. Mais ça veut dire qu'il croit tout ce qui est digne d'être cru, tout simplement. Et il continue d'y croire. Parce que ce qui est difficile, et je fais une toute petite application, mais on voit ça souvent, parce que j'en parle beaucoup, avec quand les gens commencent dans un domaine professionnel, surtout dans les domaines de l'éducation, de la santé, ou les domaines où on travaille avec les gens. Hein. Et puis les gens arrivent, ils sortent de formation, ils ont plein d'idées, etc. etc. Et puis le système du travail, le poids de la rentabilité, l'usure, etc. fait que tout le système veut vous empêcher de continuer d'y croire. Hein. Mais il y a des gens qui continuent et puis ils arrivent au bout de leur carrière et ils y croient toujours. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, ils croient tout. Ils croient toujours que c'est possible de faire la différence. C'est pas ils croient toutes les bêtises qui sont dites, ils croient tout ce qu'on lui dit. C'est pas ça. Hein. C'est lié avec l'espérance, en fait, qui va arriver. Après, ils croient tout, ils espèrent tout. Hein. Ils croient toujours que c'est possible. Oui, mais ça fait des années, ça n'a pas changé. Mais peut-être ça va changer demain, hein, après. Il y croit encore. Hein. Et Dieu est comme ça avec nous. Et on va être comme ça si on le laisse grandir en nous. Il espère tout, ben, c'est exactement la même chose. C'est en fait parce qu'on espère encore qu'on peut continuer de croire. Et il supporte tout, ben, là aussi. Alors d'abord, supporter, ce n'est pas endurer en silence. Hein, littéralement, porter par en dessous. Dieu supporte tout ce qui mérite d'être supporté. Donc tout ce qui a été vu avant, il supporte la justice, il supporte la vérité, il supporte le bien, il supporte la bonté, il le porte. Hein, et c'est son amour qui fait ça. Et enfin, on a ce dernier petit texte, 8 à 13. Hein, l'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est accompli, parfait, sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors désolé Caroline, ce verset-là, il ne dit pas le contraire de ce que tu as dit avant, même si on dirait. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face comme je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Paul utilise juste cet exemple pour dire qu'un adulte, ben, même s'il peut garder tout ce qui est beau de l'enfance, c'est plus un enfant. Il connaît la réalité du monde. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il faut plus être un enfant. La connaissance, c'est quelque chose dans lequel on progresse. Et on ne sait pas tout, mais un jour, on saura plus. L'amour, c'est différent. On y est ou on n'y est pas. Hein. Je suis dans l'eau ou je ne suis pas dans l'eau. Je suis dans l'air ou je ne suis pas dans l'air. Hein. Je suis dans l'amour ou je ne suis pas dans l'amour. Je n'ai pas besoin de comprendre l'amour pour en vivre. Bien sûr, plus je le comprends, mieux je peux en vivre. Mais j'ai besoin d'y être dedans. Et un jour, ben, la connaissance, les choses à apprendre, ça va être limité. Mais l'amour sera toujours là parce que lui, il est dans la nature même de Dieu. Hein. Donc ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour. Et voilà, tout simplement. Ben, je ne sais pas pour vous, moi j'avais besoin pour moi de reprendre ces choses-là et puis, comme ça a été dit aussi dans l'introduction, de reprendre ma vie à cette lumière-là. Pourquoi je fais les choses? D'où me vient l'énergie avec laquelle je les fais? Comment je les pratique avec les gens? Hein? Toujours les trois choses. D'où ça vient, avec quelle énergie je le fais et comment je le pratique. Et on doit surtout se méfier pour les choses qui ont l'air bonnes. Parce que les choses qui sont mauvaises, on sait qu'il ne faut pas les faire. Si on les fait, ben on demande pardon. Hein? Mais c'est les choses qui ont l'air bonnes et qu'on peut faire pour de mauvaises raisons. Et je fais une dernière application parce que c'est une chose qui touche la vie. Comme ça, quand on vit en communauté, quand je dis en communauté, pas tous dans la même maison, hein, mais comme une église. Une des difficultés qu'il y a souvent dans les communautés, c'est l'amertume qui peut arriver parce que moi je fais ça, on ne me dit pas assez merci, moi je l'ai fait, on ne l'a pas remarqué, moi je l'ai fait... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dire merci, qu'il ne faut pas faire... Ça c'est un autre sujet. Hein. Mais lorsque je vois ces symptômes dans ma vie, chacun pour soi, pas pour les autres, c'est le signe que je n'ai pas fait avec le bon carburant. Parce que quand on fait les choses, et on ne le fait jamais parfaitement, attention, hein, mais quand on fait les choses parce qu'on doit les faire, et que ça vient de l'amour de Dieu, et qu'on le pratique dans l'amour de Dieu, on a fait ce qu'on devait faire. Bien sûr, ça fait quand même plaisir si c'est reconnu, s'il y a des fruits, si on vous dit merci, si ça se voit. C'est un autre sujet, encore une fois, et qui est important, on en parlera une autre fois. Hein. Mais pour moi, en tout cas, ça doit être le voyant qui s'allume sur le tableau de bord et qui me dit « Oups, ça manque d'huile hein. ». Quand le voyant s'allume, on ne met pas du scotch noir dessus, on rajoute de l'huile. Lorsque je vois chez moi « Ah, toujours moi qui fais ça, pourquoi je suis seul ?» Alors je peux me dire « Pourquoi c'est toujours moi qui fais ça ?» Peut-être que ce n'est pas moi qui dois faire ça. Peut-être que je dois arrêter de faire ça et assumer nos choix. Hein. Ça, c'est tout à fait. Personne n'est obligé à rien avec Dieu. Mais si je fais quelque chose parce que je pense que je dois le faire, hein, alors quand je me sens fatigué, découragé, ce qui arrive tout le temps, ça veut juste dire une chose. J'ai besoin de refaire le plein. Je dois remettre du carburant. Hein, et je dois prendre le temps de me laisser aimer par Dieu. C'est une formule, mais ça doit devenir quelque chose de concret. Hein. Et c'est lié avec notre gestion du temps et notre intentionnalité. Et je dois planifier du temps où je me refais le plein. Mercredi soir, à la fin de la rencontre de prière, c'était assez surprenant, c'était très beau, c'était pas du tout le sujet. Le pasteur Schindelholz qui présidait, après avoir prié, il dit « Et prenez soin de vous. » Rôle comme formule d'envoi. Hein. Non, mais c'est important, prenez soin de vous. Puis il a répété 3 fois. Quoi. Et je trouve ça très très beau parce que effectivement, ouais, on doit servir Dieu, on s'occupe des autres. On doit prendre soin de nous. Pas dans le sens de « il y a moi que moi, moi, moi ». Mais si je ne prends pas le temps de me laisser remplir par l'amour de Dieu, je vais passer ma vie à être un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, je vais devenir amer, je vais agresser les autres, je vais plus avoir de patience. Non, prenons soin de nous. Laissons-nous aimer par Dieu de cet amour-là, parce que c'est le seul qui peut nous faire vivre sans frustration, résister aux frictions, etc. etc. Je ne vais pas tout reprendre ce que j'ai dit, et vivre paisiblement. Et être bien avec nous-mêmes. Et là, quand on va regarder derrière et qu'on va rencontrer le regard du petit enfant qu'on était, on va se dire, ouais, je ne suis pas parfait, j'ai raté plein de trucs, etc. Mais je suis celui que je devrais être, que je voulais être, parce que je vis dans l'amour. Et ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas un mélange des genres, mais c'est cet amour-là qui vient de Dieu, qui doit être importé et appliqué dans ma vie. Seigneur, merci pour cet amour que tu nous donnes. Et on te prie que tu re-remplisses nos boîtes, que sur ce mot qui est tellement utilisé, qui est tellement usé, qui est tellement délavé qu'il ne nous touche plus, tu remettes du sens, du contenu, que tu nous donnes du nouveau vocabulaire, mais surtout de la réalité. Que cet amour incompréhensible qui vient de toi puisse remplir nos vies, et dissoudre toutes les frustrations, toutes les amertumes, toutes les craintes, toutes les peurs, toutes les angoisses, et nous remplir de vérité de toi, et que tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes soit énergisé, produit par cet amour qui vient de toi et qui nous remplit, Seigneur.